Monsieur Mulcair, ben d'abord, merci d'avoir accepté notre invitation sur les ondes de CIM pour parler de ce projet, futur projet immobilier, on pourrait dire, là, qui pourrait se construire au pied des falaises à Piémont. On sait que vous aviez été impliqué il y a plusieurs années dans ce dossier-là, de tout l'aspect de la conservation là, du secteur des falaises. Comment vous avez réagi à cette nouvelle-là, par rapport aux 265 maisons là, qui pourraient se construire dans le secteur?
Mais j'étais aussi préoccupé d'apprendre l'existence d'un nouveau projet immobilier très important à la base des falaises, que je pouvais l'être il y a 15 ans, quand les gens de la place, notamment Claude Bourque et Luc Lefebvre, sont venus me rencontrer pour m'exposer le problème. Peut-être les gens ne le savent pas, mais au Québec, on compte près d'une trentaine de différents oiseaux de proie. Parmi ces oiseaux de proie, il y a plus d'une vingtaine qui nichent dans les falaises qui s'étendent de Saint-Hippolyte à travers Prévost et notamment dans Piémont. Donc, c'est vraiment là où les Laurentides rencontrent la vaste plaine du Saint-Laurent. C'est un changement d'écosystème. Et si on parle d'oiseaux de proie, bien, il faut que ces oiseaux aient de la proie pour les nourrir et nourrir leurs petits. Et le problème, c'est qu'avec un projet immobilier de plus de 250 maisons, on sera en train d'enlever énormément de boisés, on sera en train de mettre le bulldozer dans des écosystèmes qui nourrissent ces oiseaux de proie-là. Donc, tous les niveaux du gouvernement, tous les paliers, que ce soit le municipal, le provincial ou le fédéral, doivent mettre la main à la pâte pour pouvoir sauver cet important écosystème et sauver justement le domaine où ces oiseaux de proie peuvent grandir. On a même des faucons pèlerins qui sont extrêmement rares dans le monde.
Donc, pour vous, M. Mulcair, c'est définitif. C'est vraiment pas une bonne idée. Donc, vous pensez qu'il faudrait mettre fin juste aux spéculations, juste à la possibilité qu'il y ait une construction là?
Bien, lorsque j'étais le ministre, j'ai utilisé un pouvoir qui avait jusque-là jamais vraiment été utilisé. J'ai émis une ordonnance mettant fin à toute construction dans cette zone qui pouvait affecter justement les lieux de nidification et notamment les endroits où ces oiseaux pouvaient s'approvisionner en proie. Donc, si on n'a plus de forêt, si on n'a pas de milieu naturel, si on n'a pas d'écosystème apte à nourrir et à donner vie à ces populations-là, elles vont partir ou elles ne vivront tout simplement pas. On parle dans certains cas d'oiseaux qui sont vraiment extrêmement menacés. Le faucon pèlerin est vraiment très, très rare et le fait que ce faucon puisse revenir année après année, c'est merveilleux pour les familles dans la région qui peuvent apprécier toute cette vie faunique, mais c'est aussi très important pour la préservation de la biodiversité ici au Québec.
Donc, qu'est-ce qui a changé depuis, vous n'êtes plus ministre de l'Environnement, pour rappeler, là, c'est quoi, il y a une quinzaine d'années? Environ.
Dans une quinzaine d'années, il y a une quinzaine d'années, j'ai émis une ordonnance mettant fin à toute possibilité de grande construction sur la base des falaises. Et à travers les ans, différentes réussites peuvent être signalées parce qu'il y a quand même un comité régional pour la protection des falaises qui compte des bénévoles qui travaillent là-dessus sans compter leurs heures depuis une quinzaine d'années. J'ai eu le privilège de renouer avec plusieurs d'entre eux que j'avais pas vu depuis un certain temps lors de leur grande réunion annuelle de vendredi dernier à Saint-Hippolyte. Et j'étais vraiment fier de voir à quel point ces gens dévoués sont en train de faire tout ce qu'il faut pour préserver les falaises, mais notamment la vie qui dépend des falaises et les oiseaux de proie en particulier. Donc, ce sont des gens qui font un travail merveilleux. Il y a eu beaucoup de travail avec d'importantes institutions comme Conservation de la Nature Canada, qui est une fondation qui a réussi à acheter plusieurs des terrains au bas des falaises. Il y a eu des dons qui ont été faits depuis les années 50 par certaines grandes familles, dont la famille Molson. Donc, il y a un ensemble de facteurs dont on peut être très fier. Cette mobilisation de la communauté autour de la protection des falaises est vraiment quelque chose qui, pour moi, très inspirant. Je vois dans ça beaucoup d'espoir. Maintenant, il y a un gros projet et c'est en train d'aller de l'avant. Et je pense que si on est capable de rallier les forces vives du milieu et faire réaliser les différents niveaux du gouvernement, que c'est très important de trouver une autre manière de procéder que de laisser plus de 250 maisons et toutes les rues et tout ce qui va avec, je pense que ce serait une merveilleuse réussite pour l'environnement, pour la biodiversité et pour toute la région des Basses-Laurentides.
Vous m'amenez justement à parler de la famille Molson, des dons et tout ça. Pourquoi ce lot de terrain-là n'avait pas fait partie de ce don, de cette conservation, comme c'est le cas autour? Pourquoi il était seul, ce terrain-là?
Il y a des terrains qui ont pu être achetés par Conservation de la nature et donnés en perpétuité pour les préserver. Il y en a d'autres qui ont réussi à être vendus à des promoteurs immobiliers. Et je suis pas en train de dire que eux, ils ont fait quelque chose de pas correct. Si les lois et les règlements, et notamment les municipalités, les laissent faire, c'est une question qui les appartient. Mais la vraie question, c'est est-ce qu'on devrait laisser faire? Et je crois que quand on connaît l'importance des falaises comme écosystème, comme source de maintien de la biodiversité dans les Basses-Laurentides, on n'a pas d'autre choix que de réaliser qu'il faut absolument les préserver. Préserver les endroits où la proie peut se retrouver, donc préserver du développement l'ensemble des terrains au bas des falaises. Et c'est là-dessus que la communauté travaille. Les groupes comme le comité pour la protection des falaises, comité régional de la protection des falaises et autres travaillent. Et j'espère que les gouvernements fédéraux qui ont une responsabilité pour les oiseaux migrateurs, le gouvernement provincial qui parle de passé, moi je parle de l'ordonnance que moi j'ai émise quand j'étais le ministre de l'Environnement, mais Pierre Harcan, après moi, avait vraiment travaillé très fort avec le ministère pour organiser l'achat et le don par la conservation de la nature. Et espérons que ça va continuer ainsi.
Mais vous le savez, M. Mulcair, c'est une question d'argent, souvent, dans ces dossiers-là. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y avait une poursuite qui visait notamment la ville de Prévost, une poursuite de 3 millions de dollars qui a été abandonnée grâce à l'émission du permis au promoteur Silco Construction. C'est ce qui a rendu possible le projet, parce qu'avant ça, c'était impossible. C'était l'espèce de maillon qui manquait dans toute cette équation-là. Comment vous voyez ça, cette poursuite-là qui a été abandonnée? Est-ce que vous considérez que c'est une poursuite maillon?
L'existence même de ces poursuites contre les petites municipalités qui ont peine déjà à boucler leur budget, c'est très difficile pour eux de trouver les fonds pour faire face à des poursuites comme ça. On n'a qu'à penser à l'autre cas bien documenté, récent, où Grenville-sur-le-Rouge est en train de se battre âprement devant les tribunaux face à une compagnie qui voulait faire une mine sur leur territoire. Et donc ici, si on a une compagnie qui a la capacité de continuer d'aller en justice contre une municipalité de la taille de Prévost, tôt ou tard, la question doit se poser: où est l'obligation de protéger l'environnement? Est-ce qu'on va laisser ça sur les épaules des payeurs de taxes dans une ville de la taille de Piémont pour dire, bien, c'est vous qui allez payer pour ces poursuites-là? Ou est-ce qu'il y a un autre niveau du gouvernement qui doit aussi avoir son mot à dire? C'est une question de la protection de l'environnement qui est au cœur même d'un changement qui a été amené par la loi sur le développement durable que j'ai eu l'honneur de présenter à l'Assemblée nationale il y a une quinzaine d'années. Et dans cette loi-là, on est allé jusqu'à changer la Charte des droits et libertés de la personne du Québec pour inclure là-dedans le droit de vivre dans un environnement sain et dans le respect de la biodiversité. Or, ici, si on est en train de poser des gestes qui briment justement ce droit-là, il y a quelqu'un qui doit parler au nom de l'intérêt supérieur de l'avenir, des générations futures et du public. Donc, c'est tout à fait ouvert à un promoteur immobilier d'utiliser les tribunaux pour ses propres fins. Mais il faut que ce soit un match, une partie entre les gens à égalité. Et pour l'instant, on voit que les promoteurs, que ce soit pour une mine ou pour un développement immobilier, font face à des municipalités qui souvent n'ont pas les mêmes moyens pour se battre. Donc, la question, c'est qui va être là pour se battre pour le public, pour l'environnement et les générations futures.
C'est ça. Qui va être là, M. Mulcair? Parce que là, il y a des gens actuellement qui sont inquiets, des amoureux de la nature, des amoureux des animaux, qui voient un peu le développement économique, le développement immobilier face à l'environnement, alors que 2019 est une grosse année où l'on parle beaucoup d'environnement. La réponse, c'est quoi, selon vous?
Ben, je pense que la mobilisation locale demeure un élément clé. J'étais vraiment impressionné par le nombre de personnes qui étaient présentes à la réunion du comité régional de la protection des falaises vendredi dernier à Saint-Hippolyte. Ça augure bien pour la suite des choses parce qu'il y a des gens avec énormément de contacts à différents niveaux politiques et énormément d'expérience. Donc, la question n'est pas de savoir ben, est-ce que c'est un promoteur immobilier qui ne devrait pas faire ça. La question est de savoir qui est capable d'édicter et d'appliquer des règles de protection de l'environnement, des écosystèmes et de la biodiversité qui vont être là pour l'avenir, pour les générations futures. On est en train de parler d'un écosystème unique. Je ne connais aucun autre écosystème au Québec où il y a autant d'oiseaux de proie. Tout le monde en bénéficie. C'est magnifique, ça ajoute beaucoup pour la région, mais c'est surtout important de préserver la biodiversité pour préserver la vie humaine. Et donc, ça fait partie d'un ensemble. Tout est relié lorsqu'on parle d'environnement. Donc, il va falloir que cette mobilisation générale locale devienne régionale, devienne, oui, provinciale et fédérale. Il va falloir que les gens commencent à agir parce que c'est pas vrai qu'on va juste se lamenter et dire « Ah, c'est bien de valeur ». Il y a maintenant 250 maisons et c'est pour ça que les oiseaux de proie n'ont plus de proie pour se soutenir. Je pense qu'il y a d'autres manières d'y arriver. Et si ça veut dire que des groupes qui ont déjà acheté d'autres parcelles de terrain puissent faire la même chose avec les terrains en question, bien tant mieux. Ce serait une solution qui produirait le résultat et personne ne perdrait dans l'exercice.
Il faut le rappeler aux gens, aux auditeurs, M. Mulcaire, vous avez un lien particulier avec les Laurentides qui vous a voulu
oui,
grandir d'une certaine
dans les
façon.
Laurentides.
Oui.
Mon grand-père a fondé Saint-Anne-des-Lacs, Pierre Urtubise. Il avait une grande ferme avicole à Saint-Anne-des-Lacs. Et oui, ma femme et moi, on est là dans le coin des Laurentides, ma maman, nos enfants, nos petits-enfants. Donc oui, on est vraiment une famille des Laurentides.
Est-ce que vous comptez poursuivre votre implication envers ce projet-là avec le CRPF, offrir votre expertise, vos conseils? Comment vous allez continuer cette implication-là?
Bien, je suis devenu membre. Catherine et moi, on est devenus membres du comité régional de la protection des falaises. Je suis le président du Conseil du jour de la Terre, qui est un autre organisme important en environnement. Et je continue d'enseigner à l'Université de Montréal. J'enseigne en environnement et développement durable. Alors, j'espère que mon implication va pouvoir aider un tout petit peu. Mais je vois déjà que les gens qui sont là depuis de très nombreuses années font un travail merveilleux et ils méritent vraiment notre admiration et nos félicitations.
Thomas Mulcaire, merci d'avoir pris le temps de nous parler en entrevue à CIM.
Toujours un plaisir. Allez, au plaisir. Au revoir.